première vue, Pierre-Philippe Cader.
Bonjour François Marin.
Eh bien bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va plutôt bien, je suis un petit peu surpris de vos informations. Mais...
Alors comme je le dis souvent et donc je vais le répéter, nous avons ici des services secrets très...
Voilà, un lourd dossier déjà.
Voilà, absolument. Nous avons un service de documentation formidable. Donc je redonne cette phrase formidable elle aussi, vous avez quelque chose à faire dans ce milieu, mais on ne sait pas encore où, c'est lorsque vous étiez jeune étudiant en théâtre.
Quand j'étais au conservatoire de Lausanne.
Ouais.
Où je suis entré grâce notamment à André Stégère, qui est un modèle et un maître, qui est un grand pédagogue et un grand metteur en scène de Suisse romande, qui vient de fêter de ses 80 ans. Mmh. Oui, mais peut-être que je l'ai trop dit, donc on n'a pas suffisamment travaillé chez le comédien. Chez moi, j'ai eu une bourse de jeune comédien, j'ai eu des prix comme comédien, mais puis progressivement, j'ai forgé ma place, on va dire ça comme ça.
Mais dès le départ, vous sentiez, François Marin, que vous alliez être plutôt dans la mise en scène que sur les planches?
Oui, oui. Mais même, c'est peut-être un rêve d'enfance. Je me rêvais réalisateur de ce film. Je l'ai beaucoup au cinéma à l'époque. Et puis, le théâtre m'a rattrapé.
Vous êtes directeur du théâtre de Valais-Arration. Vous êtes président du pool de théâtre roman pour l'année en cours.
Pour l'année, et peut-être pour les suivantes.
Et là, vous mettez en scène le grand retour de Boris S. en création au théâtre du Crocheton à Monté, et puis plus tard en tournée. On comprend bien que le théâtre, c'est votre vie.
Oui.
N'est-ce pas? Ça me semble assez évident. On va commencer par ce travail de président du pool de théâtre roman. En quoi ça consiste?
Oh, c'est une lourde charge, non. C'est une responsabilité que j'ai depuis peu. Le pool de théâtre roman, c'est un regroupement des théâtres d'accueil de Suisse romande.
Des théâtres d'accueil.
Des théâtres d'accueil. Il y a deux associations ou deux regroupements. Mmh. C'est l'Union des théâtres romans qui regroupe les grandes institutions qui font du théâtre de création, comme la Comédie de Genève, le théâtre de Vidi, les opéras. Et puis, il y a une autre association qui est née il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le Pool de Théâtre, et c'est toutes les petites salles d'accueil. Mais en fait, c'est beaucoup moins clair, puisque au fil des années, ça s'est un peu panaché. Donc, il y a des théâtres comme le théâtre de l'Arsenic, le théâtre de Vevey, le théâtre Bénaud-Besson et Verdon, qui font partie de ce pool. Et on s'y rencontre pour parler d'abord programmation, pour échanger des idées sur les spectacles qu'on a vus en Suisse romande ou à l'étranger. Et puis, parfois, il y a d'autres questions qui sont plus d'ordre de politique culturelle. Notamment, ça c'est pour nos conseillers nationaux qui écoutent sans doute, c'est qu'il y a une révision de la loi sur le chômage qui est très dangereuse pour les intermittents, pour les comédiens, les techniciens également. Pour le régime général en lui-même déjà, il passera à 18 mois ou devrait passer à 18 mois. C'est très, très difficile pour les comédiens et les gens du spectacle dans ces cadres-là. Donc on espère que la voix de la sagesse sera entendue à Berne. Et puis il y a d'autres problèmes qui peuvent nous agiter dans le pool. Et par exemple, les spectateurs des théâtres de Suisse romande ainsi que les abonnés de 24 heures de la Tribune de Genève ont pu remarquer qu'on a fait un supplément avec l'Union des théâtres romands, le pôle des théâtres, qui parle de tous ces spectacles qui sont en tournée. Donc on essaie de se fédérer pour promouvoir le théâtre, parce qu'en Suisse romande, c'est un pays extrêmement riche en lieux culturels. Il y a une densité culturelle qui est énorme, qui n'est pas comparable avec la France. Et on a surtout la chance d'avoir des spectateurs qui nous suivent dans toutes les petites villes ou les grandes villes.
François Marin, vous confirmez donc les chiffres annoncés de fréquentation des théâtres romands qui seraient à peu près un taux de remplissage de 80%?
Alors, c'est toujours délicat de faire
des généralités. C'est une généralité.
Mais effectivement.
Ça donne quand même un éclairage sur ce qui se passe.
Oui, on a un public qui est curieux, qui est enthousiaste, qui se déplace. On n'a pas forcément besoin toujours de grands noms, que ce soit d'ailleurs dans des régions périphériques comme le Valais ou Neuchâtel ou Fribourg.
Entendre un Valaisan dire que le Valais est une région périphérique, c'est un truc que j'espérais pas entendre un jour.
Mais j'ai des problèmes identitaires parce que
c'est ça.
Parce que je suis un drôle de Valaisan puisque je suis entre Genève, le canton de Vaud. Ouais. J'étais parfois à Berne et le Valais. Je crois que c'est la Suisse romande est une grande ville d'1 million d'habitants, donc je pense que de plus en plus on circule. Et
on peut parler de quartier finalement.
Oui. Alors je suis du quartier de Sion.
François Marin, donc je le rappelle, vous êtes metteur en scène, vous dirigez la Compagnie Marin qui va présenter donc au Théâtre du Crochetant à partir du 9 octobre et jusqu'au 11 et plus tard en tournée, le grand retour de Boris S. de Serge Kribus. Vous m'avez appris tout à l'heure avant l'émission que cet auteur est belge, qui est également comédien.
Oui. Voilà. Et toujours vivant.
Toujours vivant. Voilà. C'est important de jouer des auteurs vivants.
Hein. Alors pour moi c'est essentiel depuis maintenant 14 ans que je fais de la mise en scène. À une exception près, qui était Dostoïevski, j'ai monté que des auteurs contemporains et parfois des textes qui ont été créés ici en Suisse romande ou en Suisse. Donc ça me paraît important parce que c'est des auteurs qui parlent d'aujourd'hui, oui, avec les problématiques d'aujourd'hui, avec le langage d'aujourd'hui, avec les exigences d'aujourd'hui. Et peut-être aussi, de mon côté, mettre en scène un texte classique, un Molière ou un Shakespeare, il faut avoir une vraie vision pour apporter quelque chose de plus. Et je préfère ces auteurs qui être un passeur de ces auteurs contemporains qui sont nombreux et qui sont aussi nombreux en Suisse romande.
Quel est le thème de cette pièce, Le Grand Retour de Boris S. On parle de filiation, d'identité juive, père, fils, qu'est-ce que ça signifie?
L'histoire est la suivante, c'est un fils, Henri, qui vient de perdre son travail, sa femme l'a quitté avec ses deux enfants, et puis... son père arrive et son père est un vieux comédien. Il vient s'installer chez lui parce qu'il n'y a plus de chauffage chez lui. Il a pensé que c'était mieux d'être chez son fils. Et il vient passer quelque temps chez son fils parce qu'il va jouer Lear, le roi Lear. Et durant la pièce, en fait, ils s'engueulent tout le temps. On découvre qu'ils sont les deux juifs. Et la question, qu'est-ce que c'est être un juif? Qu'est-ce que c'est être un père? Donc, à la fois, ils débordent d'amour l'un pour l'autre. Puis, ils ne savent pas comment se le dire. Ils s'engueulent tout le temps. Ils s'énervent l'un contre l'autre. Et il y a beaucoup de questions justement sur qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un fils ou qu'est-ce que serait être un juif. Et au-delà de la judéité, c'est la question de l'identité. Pourquoi on y revient,
l'identité. Oui, absolument. Mais alors, la question de l'identité, elle est assez souvent évoquée au travers effectivement de la judéité. Est-ce que vous avez une explication du pourquoi, du comment de ce questionnement de l'identité?
Bon, alors là, c'est tout à fait anecdotique, c'est que Serge Kribus est juif. Oui. Et pour lui, il se débat entre cette identité juive et sa belgitude. Parce qu'il ne sait pas s'il est plus belge que juif ou plus juif que belge. Ouais. Et quand on est comme lui, un juif agnostique, on est toujours juif, mais il se débat avec cette identité.
Au rythme où va la Belgique, il sera peut-être même de moins en moins belge.
Peut-être ça. Mais maintenant, il est parisien, donc je ne sais pas si ça résoudra ses problèmes. Mais c'est vrai que les juifs sont le peuple élu, donc c'est vraiment, on est juif de la même manière que les Suisses sont également le peuple élu, parce qu'on est suisse par le lien du sang, et si vous partez, vous serez toujours suisse, donc contrairement à d'autres pays où vous perdez votre nationalité. Donc je sais pas, puis c'est vrai que derrière la judéité, il y a tout le problème de la Shoah, de la mémoire, et comment est-ce qu'on survit à l'Holocauste, c'est comment on transmet cette mémoire. Et une des questions de la pièce, faut-il la transmettre ou pas?
C'est une question très contemporaine, hein, si je puis dire, puisqu'elle est évoquée depuis très longtemps, évidemment. Dans cette même émission, Elie Wiesel lui disait qu'il ne fallait... Alors, bien sûr qu'il faut transmettre, mais qu'il ne faut pas non plus... comment disait-il? Il parlait de la culpabilité du survivant, sans quoi il était par exemple en concurrence avec Primo, enfin pas en concurrence, mais il a bien connu Primo Levi, cet auteur italien, qui lui aussi a connu les camps de concentration, et qui lui vivait dans la culpabilité d'avoir survécu. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il s'est suicidé plus tard. Elie Wiesel, lui, n'avait pas cette culpabilité-là et refuse cette culpabilité. De la même manière que lorsqu'il parle à ses étudiants qui sont allemands, car il a des étudiants allemands aux États-Unis, là où il enseigne, il sent bien que chez eux il y a cette culpabilité permanente. Il a dit non, vous devez vous débarrasser de cette culpabilité, vous n'êtes pas vous responsable de ce qui s'est passé. C'est une question centrale.
Oui, tout à fait. Alors, l'anecdote vaut aussi que sur ce spectacle, la scénographe à qui je travaille est de nationalité allemande. Et c'est pas innocent, tout à coup, quand il y a quelqu'un de nationalité allemande qui parle du peuple juif, tout à coup, on a quelque chose qui change. Ce qui n'est pas le cas forcément, on n'a pas forcément cette culpabilité quand on est suisse. Mais c'est vrai que la pièce traite de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette mémoire? Est-ce qu'il faut s'en souvenir ou bien il faut tout oublier? Et en fait, Kribus est un petit peu qui s'incarne dans le fils. Il aimerait que tout oublie, puis en même temps, il aimerait tellement savoir l'histoire de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconter l'histoire. Donc on est dans cette double contrainte. En même temps, naturellement, on ne peut pas oublier. Il ne faut pas oublier. la mémoire est le garant de la liberté, comme on dit dans la pièce. Mm-hmm. Puis en même temps, ça nous englue, ça pourrait engluer si on porte cette culpabilité. Donc il faut s'en échapper et être toujours présent. Et ceci dit, au-delà du peuple juif, ce rapport à l'identité, à ses racines, il est la même chose. Les racines doivent s'inscrire dans le sol, mais doivent partir vers le ciel. Mmh. Et c'est ce double mouvement entre la mémoire, la transmission, et puis le fait d'être libre, de pouvoir s'affranchir de sa paternité, enfin de ses origines.
Et puis, bis repetita encore une fois, c'est-à-dire que la question de l'identité, on la retrouve régulièrement, chaque décennie.
oui.
Voilà, on pourrait parler du Rwanda, on pourrait parler de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie au début des années 90. Enfin, c'est toujours cette question est vraiment très présente et plus particulièrement, me semble-t-il, en Europe où définitivement nous vivons dans une mosaïque de communautés, de religions, de nationalismes qui s'opposent et qui s'affrontent.
Et on a peut-être plus encore qu'aux États-Unis, par exemple, ou d'autres pays, l'Australie ou l'Amérique du Sud, on a le poids de l'histoire derrière nous.
Bien sûr.
Il y a l'histoire derrière nous. Et c'est vrai que la pièce pose toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on fait ? On parlait de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda, et dans la pièce, à un moment donné, il dit « Mais pourquoi on parle, ça sert à rien, et ton beau Shakespeare, ça sert à rien, rien n'a changé. » Donc il y a par moments des constats d'échec terribles. Mmh. Et c'est contredit après, rassurez-vous, et la force du théâtre évoquée dans la pièce. Mmh. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire « Mais tout ce qu'on a fait autour de la Shoah, ça n'a pas empêché le Rwanda, ça n'a pas empêché les crimes de Bosnie ou de Serbie. »
La question de l'universalité du message qui est porté, de toute façon, elle est posée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que voilà, ça a beau avoir une valeur universelle, au fond, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et...
Oui, mais même j'ai un souvenir assez précis lorsque il y avait les événements de Srebrenica. On était avertis par la presse, on lisait les journaux. Et en l'occurrence, à cette époque-là, je répétais une pièce avec Hervé Vélois-Schmoll, qui est un metteur en scène de la région genevoise, français de la région genevoise, qui est très engagé pour, qui est allé à Sarajevo durant la guerre. Donc c'était quelqu'un qui est vraiment très, très engagé pour ces questions-là. Et on en a parlé une heure, et puis qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a fait la seule chose qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on a fait du théâtre après. Mmh. Et c'est ce que dit la pièce, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand on entend ces crimes horribles, ces choses lourdes de l'histoire contemporaine, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Simplement faire le mieux qu'on peut, ce qu'on sait faire, en l'occurrence nous, et ça je cite la pièce, c'est mettre une casserole sur notre tête et aller hurler Shakespeare dans les théâtres. Mmh.
Donc au fond, ce que dit Jérôme Maizot de vous, c'est que vous êtes là pour décoder le monde contemporain et c'est l'un des rôles du théâtre, vous confirmez ?
Oui, oui. Oui, le choix des textes contemporains va dans ce sens. Mais au-delà, il y a aussi l'histoire avec un grand H, et puis il y a toutes ces histoires d'individus qui m'intéressent. Je fais une pièce sur la séparation ou sur la perte. Je pense que le thème de la séparation, de la perte ou de l'identité sont des choses qui parcourent mon travail. De la même manière aussi sur le mal. J'avais fait tout un travail sur Gilles de Rais, personnage... assez monstrueux, mais en même temps sanguinaire, qui a tué plus de 600, enfin on lui attribue plus de 600 meurtres d'enfants et pédophile avant la lettre, et en même temps un personnage qui est amené en terre avec des pleureurs, avec des chants d'église, donc il y a une rédemption.
Il était cardinal.
Non, il a été compagnon de Jeanne d'Arc. Il avait sa propre chapelle. C'était un grand seigneur de guerre, un des hommes les plus puissants de France au XVe siècle. Et puis comme il a demandé pardon. Ouais. À la fin de son procès, qu'on peut lire du reste, eh bien, elle était brûlée, certes, mais ses cendres ont été mises dans une église. Donc, il y a la rédemption. Alors, comment sur la figure du monstre et du mal, c'est aussi un des axes. Et l'idée de la Shoah est aussi là derrière.
Cette pièce s'appelle Le Grand Retour de Boris S. Elle est signée Serge Krébus, mise en scène par François Marin, notre invité aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Arthur H. Encore une histoire de filiation, cosmonaute, père et fils, mais différente cette fois.
En 1970, sur le téléviseur, j'ai vu la fusée de mon père redescendre sur la terre. Sur la lune, il a erré, a dansé sur la mer de sable. Mais tout le monde sait qu'un cosmonaute, quand il revient parmi nous, a souvent du mal à supporter l'atmosphère. Il a vu de trop près l'infini, ici tout est trop petit. Sa tête est restée là-haut, dans l'univers. Papa est cosmonaute, un très bel astronaute. Papa est cosmonaute, un très bel astronaute. Moi, comme un bon petit garçon, je suis resté à la maison pour protéger ma mère. Pendant que mon père s'envoie en l'air, en apesanteur plane dans la stratosphère. Mais ma mère l'a bien compris, il fallait qu'un jour, moi aussi, je touche l'infini. Je serai cosmonaute, un très bel astronaute. Je serai cosmonaute, un très bel astronaute. J'ai tenu ma promesse, une promesse d'enfant n'est jamais perdue. Aucun désir ne se gare dans l'univers. Voilà, maman a grandi, je suis prêt pour le voyage. Regarde-moi décoller. Vers ces merveilleuses nébuleuses dorées, je suis un cosmonaute, un très bel astronaute. Je suis un cosmonaute, un très bel astronaute.
Arthur H., cosmonaute, père et fils. Vous écoutez à première vue, dès 13h23, notre invité est François Marin, directeur du théâtre de Valération, président du pool de théâtre roman, directeur fondateur de la compagnie Marin et donc metteur en scène, par ce biais-là, de cette pièce, Le Grand Retour de Boris S., signé Serge Cribus, présenté à partir du 9 octobre au théâtre du Crochetant à Monté. C'est une pièce, parce que tout à l'heure on a évoqué, François Marin, le thème de la filiation, de la judéité, évidemment on a employé les mots de Shoah, etc. Et c'est une pièce qui est drôle.
Oui, c'est d'abord une comédie.
C'est d'abord une comédie.
Oui, oui. Une comédie entre avec l'esprit, on pourrait dire Woody Allen, donc c'est très, il y a des réparties qui sont très drôles, il y a de l'émotion
qui
aussi.
Qui est une conscience de l'humour juif aussi, c'est évidemment.
Lorsqu'on a fait la première semaine de répétition, j'avais imposé comme contrainte aux comédiens qui chaque jour ils devaient m'amener une histoire drôle, une histoire juive par conséquent. Ouais. Et il y a la particularité de l'humour juif, c'est souvent la double contrainte. On dit une chose, puis on fait le contraire. Enfin, c'est
le double sens.
Le double sens.
L'autodérision. Voilà.
Exactement. Ouais. Donc, et ça, c'est très présent dans cette pièce. C'est vraiment une... Enfin, moi, je crois que c'est une pièce drôle. Je ris en répétition. J'espère que le public rira. Puis il y a en même temps des moments très touchants entre ces deux. Donc, c'est une très belle pièce de théâtre parce qu'à la fois, on peut rire, mais vraiment simplement, enfin, des surprises, soit sur le rapport père et fils, sur l'évidence, etc. Beaucoup de naïveté et puis en même temps des moments vraiment d'émotion.
Deux hommes sur cette vaste scène du Crochetant à Monté, Jacques Michel et Marc Majora.
Oui, mais en fait, c'est une vaste scène, certes, avec une grande jauge, mais en fait, nous avons la particularité de mettre le public sur scène. Et donc, il y a une centaine de places. Alors, je sais que la première est complète, ce qui est plutôt bien, et puis que les deux jours suivants, il y a encore un peu de place. Mais en fait, la scène n'est pas aussi vaste, et puis ils ont une sorte d'espace scénique qui est plus réduit. Mais deux comédiens magnifiques, que sont Jacques Michel et Marc Majora. C'est un plaisir de travailler avec ces deux monstres, on va dire.
L'idée de cette mise en scène un peu particulière, au fond, où l'on voit les comédiens sont au milieu du public, pratiquement.
Non, ils sont pas au milieu, ils sont devant le public, mais le public est sur
et
la scène.
Et aussi sur scène, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, donc on utilise la pente.
Voilà, le gradin est sur scène, c'est
voilà.
Pour ça.
Ah, ouais, d'accord. Là, on peut parler de mise en scène. Est-ce que vous êtes tenté, comme beaucoup, au fond, François Marin, de trouver de nouvelles formules de mise en scène? C'est-à-dire que, dans cette émission, avec Philippe Cohen, nous évoquions la présence des écrans sur les scènes de théâtre. C'est de plus en plus le cas. On voit des pièces très classiques, remises au goût du jour. Et comment est-ce qu'on les remet au goût du jour? Eh bien, par exemple, si c'est un Molière, on va habiller le héros avec des baskets de marque et puis on va mettre des écrans sur scène. Est-ce qu'il n'y a pas chez les metteurs en scène de théâtre cette tentation de vouloir à tout prix être plus moderne que la modernité, finalement?
Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait mon cas. Non, parce que je suis plus texto-centriste, donc pour moi c'est d'abord le texte, et il faut que le texte soit là, et s'il est bien joué, on peut jouer.
Mais l'idée de mettre les spectateurs sur la scène,
c'est simplement une question de place.
Tout simplement.
Voilà, pour pouvoir jouer plus longtemps. Voilà. Ouais. Parce que la salle du Crochetant fait 600 places, et si, pour des raisons simplement de jauge, on pourrait jouer 3 soirs, mais s'il y avait 50 personnes dans la salle, c'est pas très agréable. Tandis que si on peut jouer sur la scène du Crochetant en mettant le public sur scène, on peut jouer plus longtemps avec des salles complètes, donc c'est plus agréable. Et puis, sur le dernier spectacle que j'ai réalisé, dont le titre est assez tout un programme, il faut parfois se servir d'un poignard pour se frayer un chemin, qui est un texte Roberto Alvim, qui est un texte contemporain, que j'ai créé en français. Mais là, on avait besoin de musique, de danse. Il n'y avait pas d'écran, c'est arrivé sur d'autres spectacles, mais si le texte le nécessite, je pense que c'est utile. Je crois que jouer Tartuffe en basket, ce n'est pas la chose la plus révolutionnaire. Ou jouer un Shakespeare en costume, cravate, ce n'est peut-être pas la chose la plus intéressante. L'important, c'est d'abord le texte. Enfin, pour moi, c'est que le texte ait des enjeux, qu'il y ait du jeu, et qu'on vous raconte une histoire. Parce que le théâtre, c'est finalement raconter une histoire. Et comme dit Brooke, le pire, c'est le diable, c'est l'ennui. Et le pire, c'est l'ennui, c'est qu'on s'ennuie. Et on peut s'ennuyer avec des écrans sur scène, on peut s'ennuyer avec un théâtre plus traditionnel ou plus conventionnel. Donc, s'il y a des très beaux spectacles où il y a des écrans, ça, il ne faut pas le dénier. Il y a Robert Lepage, qui est un maître, ou bien Vajdi Mavad, qui a fait un magnifique spectacle sur la vidéo récemment. Donc, oui, le tout, c'est que ça soit bien fait, qu'il y ait du jeu. Donc, c'est du truc de mettre un écran pour un écran, mettre du rap pour du rap, si ça n'a aucune nécessité. Mais souvent, les spectacles que je vois, il me semble qu'il y a une nécessité.
Oui, mais alors, parce que j'ai le sentiment que les metteurs en scène ont cette angoisse du vide, comme l'auteur face à la page blanche, parce qu'ils s'imaginent qu'effectivement, il faut être à tout prix au goût du jour, et être au goût du jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre des écrans, du rap, comme vous le dites, qu'on va habiller des comédiens shakespeariens de costumes cravates, et puis, pour être à tout prix moderne, contemporain, pour être sûr d'avoir du public, alors qu'on sait bien que c'est pas ce qui fait venir le public.
Non, le public.
Et les chiffres sont là pour le prouver,
oui,
en tout cas,
public, en ce moment. Essentiellement pour qu'on lui raconte une histoire, pour qu'il soit ému, pour qu'il soit qu'il rie, qu'on le divertisse aussi. Je ne sais pas s'il y a ce souci de faire moderne, mais l'avantage parfois de la vidéo, c'est qu'on peut faire voir des détails qu'on ne voit pas au théâtre. Par exemple, il y a des metteurs en scène, notamment en Allemagne, qui utilisent beaucoup la vidéo en gros plan, et tout à coup, vous avez le personnage qui apparaît. Mais parfois, ça pose un problème, parce que je pensais à une mise en scène que j'ai vue à la Volksbühne. Il y avait 30 minutes où on n'avait que de la vidéo et les acteurs étaient partis, donc ils étaient filmés hors du théâtre. Donc le monde arrivait dans le théâtre, mais on se demande pourquoi pas faire du cinéma. Donc les limites sont souvent atteintes. Mais finalement, le théâtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui raconte une histoire face à un public qui est là, qui est présent, qui peut s'endormir, qui peut râler, qui peut partir. Donc c'est différent que le cinéma. Je voyais ce matin un spectacle qui s'appelle Les Spectateurs au théâtre de Carouge, qui va débuter pour le public récemment. Et à un moment donné, on demande c'est quoi la différence entre le cinéma et le théâtre. Et le comédien dit je vais te montrer. Et il sort de scène. Il descend dans le public et il va embrasser une pauvre jeune fille qui était là. Et bien c'est ça la différence. Ça au cinéma, on peut. George Clooney ne fera jamais ça, malheureusement.
Non, Woody Allen l'a fait.
Oui, c'est juste. Il y a des exceptions.
Il y a des exceptions.
Ouais, il l'a fait dans le film.
Dans le film, oui, voilà. Bien sûr.
Ouais.
Absolument. La dernière fois que vous êtes vraiment, vraiment, mais franchement ennuyé au théâtre, ça remonte à combien de temps? Parce que je sais que vous allez... En général, voir énormément de pièces un peu partout.
Ça fait partie de mon job.
Ça fait partie de votre travail, absolument. Lorsque vous êtes...
C'était à Avignon.
Voilà, j'allais le dire. Lorsque vous êtes en Avignon, vous avez vu 70 spectacles.
J'en ai vu 40, mais mon équipe en a vu 70 à 80. Oui.
C'est pas humain, 40 spectacles.
Ça veut dire 5 à 7 spectacles par jour.
C'est pas humain, c'est pas normal. Non mais honnêement, qu'est-ce que...
Vous dites que je suis Superman, je suis non, pas
non,
Superman.
Non, pas du tout. Ma question c'est, en allant voir 5 spectacles par jour, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on retient, est-ce que le jugement est encore vrai, enfin, est-ce que ça ne fausse pas le jugement plutôt?
C'est-à-dire qu'on a une fatigue. Mais, mais ceci dit, quand les spectateurs viennent au théâtre, ils ont aussi une journée de travail derrière eux.
Oui, non, mais attendez, non, d'accord, mais voir 5 pièces de théâtre de 9h du matin jusqu'à 2h du matin, c'est pas la même chose. La pièce que vous allez voir à 1h du matin, je pense pas que vous soyez totalement dans la lucidité la plus totale et extrême pour être à même d'apprécier la pièce. Je sais pas, c'est une question que je vous pose.
Ou alors
c'est l'inverse.
Mais je pense que je regarde les spectacles différemment que n'importe quelle autre personne. Je vais pour voir des spectacles en songeant à un public. Et le public de Sion n'est pas le même public que de Lausanne, etc. Et puis il y a d'autres problèmes qui sont techniques, qui sont propres à la scène de Valère. Après, il y a des évidences. Il y a une journée cet été où j'ai enchaîné 2-3 spectacles qui ne me convenaient pas. Puis je me suis dit, je suis fatigué, j'avais aussi d'autres choses dans ma tête qui m'occupaient un peu l'esprit. Je dis, cette année, j'arrive pas à trouver des petites perles. Et puis le spectacle suivant, c'était une évidence. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous êtes fatigué, tout coup, il y a un spectacle qui vous donne la pêche, qui est formidable, qui est inventif, qui vous raconte une belle histoire, qui vous émeut, etc. Et peut-être qu'on est fatigué, on est plus sensible encore à l'émotion, au rire.
On atteint un état modifié de la conscience, quasiment.
Oui,
et donc on est très réceptif.
Quasiment. Mais en l'occurrence, je vais rarement seul à Avignon. Et donc, je suis accompagné par d'autres programmateurs de Sion. Et quand j'ai justement des hésitations, en me disant peut-être que c'était moi, parce que naturellement, quand on voit un spectacle, on a l'état du spectacle, l'état aussi des comédiens, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les signes qu'ils envoient. Et puis, il y a aussi notre état. Si on s'est engueulé avec sa femme, si on a eu de la peine à parquer pour arriver au théâtre, ça modifie notre perception. Ou si on a vu 5 spectacles avant, ça modifie notre perception. Alors, quand j'ai des doutes, je demande à un de mes collègues de voir également le spectacle. Mais ceci dit, y a un écrémage qu'on en garde une dizaine, une douzaine.
Avignon reste encore un lieu d'importance pour le théâtre ?
Alors, il y a une double question, parce qu'on ne parle pas du même Avignon. Moi, je vais essentiellement dans le théâtre off, dans le festival off, où là, il y a à la fois, et je vais pas, il y a 800 spectacles, hein, donc genre, on en voit à peine 10%. On cible un petit peu les endroits où on va. Et donc, c'est un lieu où on peut voir beaucoup de spectacles, même si on n'en voit pas autant qu'on en voit, mais on peut voir beaucoup de spectacles, et puis des choses très différentes. Mmh. Et c'est vrai que je remarque dans le festival off, on a soit des spectacles qui sont soutenus par des agents, ça devient de plus en plus le cas, soit des formes qui sont dans les marges du théâtre. Donc des spectacles qui mêlent la musique et la danse, qui mêlent la vidéo parfois. Et puis, il y a le festival IN, qui est donc un cours d'honneur, qui a changé de direction il y a 3 ou 4 ans, et qui a été l'objet de beaucoup de scandales il y a 2 ans. Alors c'est toujours...
En raison de la programmation,
ouais. Qui était une programmation qui était essentiellement sur la danse, sur le corps. C'était Yann Fabre qui était le metteur en scène invité, et ça avait suscité beaucoup de discussions, puisque dans la cour d'honneur, il n'y avait qu'un seul spectacle de texte, c'était l'acteur m'échappe, mais il lisait des textes d'Apollinaire, grand comédien français, enfin ça va revenir, il n'y avait que ça. Donc c'était un petit peu faible pour la cour d'honneur où il y avait Gérard Philippe, etc. Mmh. Donc ça avait suscité beaucoup de polémiques. Mais il est évident qu'Avignon est un des lieux importants comme Édimbourg pour le théâtre. Si on veut se faire une orgie de théâtre, de spectacle et de choses différentes, il faut aller à Avignon, c'est impératif. Comme spectateur, pas forcément comme programmateur, mais comme spectateur, oui.
Lorsque vous êtes à Édimbourg, les pièces, elles sont évidemment en anglais, j'imagine.
Mais je ne vais pas à Édimbourg.
Ah, c'est ça.
J'ai des collègues qui y vont, mais mon emploi du temps fait que je ne peux pas aller à Édimbourg. C'est un regret, parce que c'est vraiment un festival qui est beaucoup plus développé encore qu'Avignon.
Donc au fond, vous allez voir les pièces. On ne vous envoie pas de DVD, d'une captation.
Si, rassurez-vous.
Oui, quand même.
On m'envoie des DVD. C'est toujours bizarre de voir le théâtre filmé. Et puis c'est vrai que j'essaie d'abord de voir les pièces. Mmh. Et puis il y a toujours aussi dans le cadre du pool des échanges sur des spectacles qu'on va voir en Suisse ou à l'étranger. La difficulté des pièces suisses, c'est que vous avez une pièce qui se crée à Lausanne ou à Genève, qui se joue en 12 et 15 jours. Et puis pour reprendre une pièce... il faut avoir plusieurs théâtres qui soient intéressés ou qui puissent prendre sur des longues durées, parce que ça coûte trop cher de reprendre une pièce pour 2 dates. Donc parfois on voit des spectacles magnifiques en Suisse romande, on s'annonce comme intéressé, et puis finalement on est le seul ou on est 2 ou 3 à vouloir pour 3 dates, et la compagnie ou le théâtre dit ça coûte beaucoup trop cher, donc dommage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce type de travail, quand on va voir des compagnies de Suisse romande ou des spectacles dans les théâtres de Suisse romande, c'est qu'on commence à connaître bien des signatures, et on peut après s'engager sur la création.
On parle beaucoup de coproduction, c'est le cas au Théâtre de Vidi à Lausanne, qui fait des coproductions avec le Théâtre de la Ville à Paris ou d'autres. Le théâtre aujourd'hui s'oriente vers un système qui ressemble à celui du cinéma, c'est-à-dire que seul, on n'a plus assez de poids financier pour monter des pièces importantes, on est obligé d'en passer par la coproduction.
Quand François Rochet est arrivé au Théâtre de Carouge, il y a maintenant 5 ans, mais dans c'est Jean Lhermé qui est à la tête de ce théâtre, il a voulu faire du théâtre comme il y a 30 ans, c'est-à-dire en ne faisant que des productions. Alors au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne marchait plus, parce qu'effectivement, on a changé de période et on a besoin d'aide, de coproduction, ce qui permet que ce spectacle ait une vie plus longue. Et les coproductions, si vous regardez les programmations des différents théâtres de Suisse romande, il y a souvent 1 à 2 productions propres au théâtre, et puis des accueils ou des coproductions. Donc c'est un mode actuel qui permet des spectacles de vivre plus longtemps. Alors on n'est pas au niveau du cinéma, mais je crois que si vous regardez les programmations de Suisse romande, des différents théâtres d'accueil ou de création, vous n'avez pas des programmations monocolores, donc on a encore beaucoup de diversité sur un tout petit territoire. Et puis vous parlez de théâtre de ville et de coproduction, là il y a une chose dont je suis particulièrement fier, c'est que le théâtre de Valère et le théâtre du Passage à Neuchâtel se sont associés pour une création qui s'appelle Les Estivants de Maxime Gorky. La première aura lieu à Sion le 17 octobre. Et puis, ce spectacle, qui est créé par 2 théâtres périphériques, on va dire, que ce soit Neuchâtel ou par rapport à l'Arc Ménagique, Neuchâtel ou Sion, ce spectacle, il est joué, il est accueilli, il n'est pas coproduit, il est accueilli par la Comédie de Genève et par le théâtre de Vidi. Donc tout à coup, deux théâtres qui se mettent ensemble, qui sont plus petits, réussissent à entrer, à présenter ce spectacle qui serait, je pense, une très belle réalisation de Robert Bouvier dans ces deux lieux importants. Donc là, je suis assez fier de cette opération, qui est d'ailleurs parmi grâce à une démarche du canton du Valais qui s'appelle Théâtre Pro. Et depuis maintenant 3 ans, le Théâtre du Valais rattrape le retard au niveau de la création théâtrale. Et je pense qu'avec Fribourg, le Valais est maintenant des cantons les plus dynamiques au niveau de la création culturelle. Fribourg a déjà entamé ça depuis longtemps, notamment avec ce qui se passe à Nuitonie. Donc on a un mouvement de ces deux cantons qui rattrape un petit peu le retard. Et c'est vrai que le canton de Fribourg est un des cantons aussi les plus dynamiques qui dans les perspectives d'avenir, sont encore nombreuses.
Il y a de la place. François Marin, lorsqu'on parle de coproduction, on parle bien sûr de coproduction entre théâtres, théâtre roman, théâtre parisien, théâtre bruxellois, enfin en tout cas belge, francophone. Est-ce que vous vous sentez une appartenance à une même famille entre auteurs, metteurs en scène, comédiens francophones, ou est-ce que vous distinguez encore des différences, des nuances, des choix de théâtre qui sont très différents, qui dépendent beaucoup de peut-être de l'ambiance du moment dans ces pays respectifs?
Oui, moi je pense qu'on s'est rencontrés dans le cadre du Pool récemment avec des programmateurs français. C'est vrai qu'on est différents. On a des points communs, naturellement, mais on a une différence culturelle, de politique culturelle. La politique française est très jacobine, ce qui n'est pas le cas de la politique suisse, avec ses avantages et ses défauts. Hein. Et puis, par contre, il y a, me semble-t-il, beaucoup de liens avec la Belgique. Et beaucoup d'envie, en tout cas de notre part, puisque les Belges, même si c'est assez complexe, réussissent à se fédérer et à proposer des choses intéressantes au niveau théâtral. C'est un fait, mais il se trouve que depuis quelques années, dans la programmation que je fais à Valère, il y a beaucoup de spectacles qui nous viennent de Belgique et des spectacles de très grande qualité.
Donc il y a un théâtre belge.
Ah oui, il y a un théâtre belge.
Vivant.
Ouais. Et des auteurs belges vivants. Ouais. Et des metteurs en scène belges, je pense à Philippe Sireuil notamment, qui sont extrêmement vivants, exigeants. En même temps, c'est des metteurs en scène ou des auteurs qui font un théâtre drôle, qui font un théâtre qui pense, un théâtre contemporain de très grande qualité.
Notre invité est François Marin. Nous parlons de théâtre, vous l'aurez compris, avec lui. Je crois que nous avons une information routière à vous donner.
Infotrafic RSR. Ouais,
on n'est pas trop sérieux.
Pour vous dire que la circulation. La circulation s'écoule avec difficulté sur la route du lac entre Alamans et Saint-Pré. La circulation est réglée par des feux à l'approche du carrefour du Coulet. Un chantier se déroule à cet endroit jusqu'aux environs de 17h.
שהשמש תכפה בשבע בבוקר אשחה במתיקות שלך עד שהים יבכה בשבע בבוקר אגע בפצעים שבי ממך עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך עד שהאהבה תחליט אותנו ללכת בתוך עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך עד שהאהבה תחליט אותנו ללכת בתוך ללכת בתוך ללדת בתוך עד שהשמש תכפה בשבע בבוקר אשחה במתיקות שלך עד שהים יבכה בשבע בבוקר, ניגע בפצעים שבי ממך, עד שהסערה תטרוף אותנו, לרקוד בתוך הג'אבה, תחליט אותנו ללכת בתוך הג'אסערה, תטרוף אותנו לרקוד בתוך הג'אבה, תחליט אותנו ללכת בתוך ללכת בתוך שמש תכפה בשבע בבוקר.
יעל נעים, il est 13h45 sur la première. Encore quelques minutes à passer avec François Marin, metteur en scène, directeur de la compagnie Marin. Je rappelle que cette pièce que vous avez mise en scène, Le Grand Retour de Boris S, est une création présentée au Théâtre du Crocheteau à Monté les 9, 10 et 11 octobre et plus tard en tournée. Vous trouverez toutes les dates sur apremièrevue.rsr.ch ou sur le site de la Compagnie Marin. C'est Compagnie Marin en un seul mot.ch. Marin comme marin.
Oui, comme un marin.
Voilà, comme un marin. Ouais. Parlons de l'humour, François Marin. Vous avez un rire tonitruant, donc je me dis que vous avez dû l'exercer, mais...
Parfois, oui.
Parfois, oui.
Oui, oui. Même de manière potache, ouais, avec certaines personnes qui sont dans cette maison, à commencer par Daniel Rosis,
ouais,
ou l'un des directeurs d'Espace 2, Pascal Critin,
ouais,
à qui nous avons commis beaucoup de... qui sont...
Non, ne dites joyeuses. Pas, vous allez ruiner leur
voilà,
réputation.
Non, 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 mais il était voilà, moins sérieux qu'actuellement.
L'humour, est-ce que c'est ce qui permet de sauver une saison théâtrale?
Si on le voit comme ça, oui, oui, bien sûr, ça peut aussi le faire. Mmh. C'est clair que, mais en même temps, je pense que, alors là, je parle du théâtre de Valère. Lorsqu'on est dans une saison où il faut être éclectique et penser à tous les publics, il faut aussi penser à l'humour. Et alors là, il y a des abonnés qui détestent ça, qui viennent pas, et puis il y a du public qui ne vient que pour ça. Donc c'est une question de passe-nachage. Je pense pas que il y a un directeur en Suisse romande qui place un spectacle d'humour uniquement pour faire du remplissage. Quand vous programmez un spectacle, c'est que vous l'avez d'abord apprécié. Ça vous a d'abord fait rire. C'est pas parce qu'il y aura un public sur cet humoriste. Il y a des humoristes qui font des spectacles et on les trouve pas suffisants pour être présentés au public. Donc l'humour, c'est une chose, une composante de la vie aussi. Et moi, j'aime bien quand ces spectacles sont à la fois touchants et drôles. J'ai accueilli la dernière création de Claudinga Barbet, Les Petits Arrangements, qui a été créée à Valère. Eh bien, c'est un spectacle qui va jouer prochainement d'ailleurs à Mérin. C'est un spectacle qui est à la fois touchant et très drôle. C'est un spectacle où elle parle de sa rupture amoureuse. Donc, c'est pas qui est dans son dernier roman. Son roman est assez bouleversant, mais le spectacle est un très beau spectacle, drôle, fin, avec une pléthore de comédiens de talent. Donc, non, l'humour, c'est une chose importante. Malheureusement, c'est vrai qu'en francophonie, et peut-être en France, particulièrement dans les scènes dramatiques nationales, c'est un peu mauvaise presse, parce que tout à coup, dès qu'on a un peu de public, je crois derrière ça, c'est cette idée que si on a trop de public, c'est qu'on est poujadiste, donc on est populiste, etc.
Populaire est un vilain mot.
Populaire, oui. Enfin, non. Quand même.
Non, je veux dire, de leur point de vue. C'est ça qu'on nous dit, au fond.
Tout à coup, on a peur d'avoir trop de public. Parce que si on a trop de public, c'est qu'on a fait on n'a pas fait un spectacle très élitiste.
Ouais.
Alors que moi, quand le spectacle est très fréquenté, c'est formidable. C'est un gage. C'est pas forcément. Oui, c'est un plaisir de jouer devant une salle pleine.
Mmh.
J'ai monté il y a quelques années les 5 filles couleur pêche d'Alan Ball. C'est une comédie très décapante. Alors c'est clair, si c'est moi qui la monte, je rajoute une une autre dose, enfin un peu de dérision ou de critique de la société. Mais ça marchait formidablement sur le public. C'était un spectacle drôle et critique. Mm. On a fait d'excellentes recettes, donc on est très contents. Et quand un spectacle est complet, après deux jours de jeu, c'est un vrai plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise presse. Alors peut-être que c'est aussi une vision qu'on a un peu faussée, mais qu'en France, l'humour n'a pas forcément la bonne presse. Parce que l'humour, c'est commercial, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ne le sont pas.
Oui, mais c'est d'autant plus étrange qu'on a le sentiment que l'humour est présent partout et qu'il sert à boucher tous les trous, que ce soit à la télévision, dans la presse, à la radio. Mmh. S'il n'y a pas d'humour dans une émission, ça pose un problème, visiblement, en tout cas sur les chaînes privées. Ce qui fait qu'au fond, on peut faire un parallèle entre les télévisions privées, les télévisions de service public et puis le théâtre subventionné et le théâtre privé. Oui, oui. Où là, on ne fonctionne pas du tout avec les mêmes moyens, les mêmes envies non plus. Et donc les mêmes comédiens.
Tout à fait. Dans le théâtre privé, il faut que ça marche et qu'il y ait du public. Ouais. Dans le théâtre public, peut-être en France, il y a une crainte que les directeurs aient un peu oublié le public. C'est l'objet de plusieurs débats, de plusieurs colloques, de plusieurs livres qui parlent de ça, qui disent mais on a un petit peu que les metteurs en scène ou les équipes artistiques sont un peu refermées sur elles-mêmes et ne pensaient plus qu'à se faire plaisir et oublier que le théâtre est d'abord un service public. D'abord, on doit s'adresser à des gens pour leur raconter une histoire, qu'elle soit drôle ou tragique, et pas seulement entre soi. Je parlais tout à l'heure de Robert Abirachet, qui est un des directeurs du théâtre, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le rapport entre l'autorité de tutelle, donc l'État français, et les artistes. Et l'évolution, c'est un des grands directeurs du théâtre sous Jack Lang, l'évolution de la période Mitterrand jusqu'à notre période actuelle. Et il pointait du doigt la disparition de l'humour dans les salles subventionnées en France. Tout à coup, quand on fait un spectacle qui est drôle, ou un spectacle, une comédie, tout à coup, c'est un peu suspect. Ça ne devrait pas être joué là. Ça doit être joué dans un théâtre privé, mais pas dans un théâtre subventionné. Alors que non, c'est du théâtre. Et l'important, c'est qu'il y ait du jeu. C'est et encore une fois, le théâtre, il est là pour divertir, pour émouvoir et pour faire réfléchir. Mais les trois ensemble, de préférence.
François Marin, lorsque, à la fin d'une représentation, vous êtes là, vous êtes présent, vous voyez les spectateurs, vous allez vers eux, vous allez parler avec eux, ils viennent vous voir, vous parlez de ce que vous avez fait, eux, ce qu'ils ont ressenti, vécu.
Alors c'est plutôt les spectateurs qui viennent vers moi, ouais. Oui, ça arrive, oui, tout à fait, ça me paraît important, même si on est des fois un peu timide. Mais
le retour du public, c'est important, évidemment.
Oui, c'est important pour entendre les critiques et pour entendre aussi les compliments. Après, j'ai mon intégrité, c'est mes choix, et je les assume. Alors parfois, j'ai eu des mauvaises surprises, des spectacles qui sont délités ou des créations sur lesquelles j'avais misé qui n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu que j'avais mis dessus. Ça peut arriver. C'est un dialogue avec le public qui est nécessaire, oui, bien sûr. Mais c'est important d'avoir ce retour. Mais en même temps, tous les goûts sont dans la nature et tous les mauvais goûts aussi. Donc il y a des choses auxquelles je crois qui peut-être ne touchent pas une certaine frange de public.
Parce qu'au fond, le metteur en scène est seul maître à bord après Dieu. Alors qui vous dit
Mais
dis
non,
donc,
c'est les comédiens qui sont maîtres à bord.
Oui, une fois que la pièce est lancée.
Voilà. Ils font ce qu'ils veulent.
Ils font ce qu'ils veulent après.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Oui, mais a priori, ils sont quand même dirigés, orientés, guidés par le metteur en scène. Oui. C'est vous qui faites des choix, c'est vous qui imposez ces choix. Si vous les imposez, en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quel est le marqueur, quel est le signal que vous avez juste ou que vous avez faux dans une mise en scène ou dans votre travail? Est-ce que vous êtes, François Marin, retrouvé parfois dans la situation où vous vous êtes dit, là ça me plaît, mais ça ne plaît qu'à moi, en gros?
Je crois pas. Je crois pas, non. Parce que d'abord, je suis pas seul. J'écoute beaucoup l'équipe qui est autour de moi, indépendamment des comédiens, donc la scénographe et l'éclairagiste. Et puis je vois bien leur visage quand ça marche pas. Alors l'anecdote, c'est qu'il y a eu deux éléments de scénographie auxquels on avait beaucoup réfléchi avec les scénographes. Et puis on tenait sur un spectacle qui avait une toile. Et puis j'étais le dernier à m'acharner à vouloir que cette toile soit sur scène. Et c'est la scénographe qui m'a dit non mais ça marche pas. Puis on l'a enlevé.
Ouais.
Donc
voilà. Là vous avez suivi le conseil de la scénographe.
Oui, parce que tout le monde le disait, mais pour moi c'était un peu difficile de dire à la scénographe écoute, je suis pas sûr de ça.
Ouais.
Voilà, donc.
C'est quoi? C'est l'aveu que vous seriez trompé, par exemple?
Oh non. C'est beaucoup plus anecdotique que ça. Tout à coup, c'était l'élément le plus cher du décor. Aussi. Alors oui, on s'est trompé. Ouais. Là, sur le spectacle qu'on réalise, là, l'écran retour de Boris Hess, on avait prévu un élément de décor et tout à coup, en le faisant avec, sur le plateau, ben, ça marche pas. On a écouté tout à l'heure Yael Naïm. Et à la fin du spectacle, je voulais qu'il y ait Yael Naïm. Ben, ça marche pas. Donc, c'est, voilà, ça, c'est un, je rajoute une patte au serpent, donc ça, c'est pas nécessaire.
Ouais.
Donc, on
ouais.
essaye, puis bah, non, c'est une mauvaise idée. Ouais. Alors, peut-être, je mets quelques jours à reconnaître mes mauvaises idées. De la même manière sur la direction d'acteur. Parfois, j'indique des choses, puis ils le font une fois, deux fois, puis je dis non, c'est une mauvaise idée. Mmh. Donc, j'espère que je suis assez lucide de ce côté-là, à pas trop s'acharner à maintenir des choses. Et pas trop me tromper, non? Je crois pas. Enfin, j'espère pas.
On donne une image très sérieuse hein, du théâtre.
Oui, oui. J'espère. Non, mais oui. Il faut raconter des histoires drôles, c'est ça.
Non, non, pas du tout. C'est que on présente toujours. Oui, le théâtre est une chose sérieuse.
Ah, vous parliez en général.
En général.
Je croyais de ce moment.
Et puis ce moment-là aussi, on parle du théâtre un petit peu sérieusement quand même, mais c'est quand même juste une jubilation de faire ce métier.
Oui, oui. Alors, c'est un métier difficile. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup du chômage des comédiens. On parle ouais. beaucoup de cette difficulté, mais jouer. Enfin, le terme dit lui-même, hein, c'est du jeu, quoi. C'est de l'amusement, c'est très sérieux, mais en même temps, c'est une jubilation, enfin, ouais. un vrai moment de bonheur. Et puis le théâtre, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est le faire ou le voir. Donc, faut se taire.
Vous avez déjà été surpris par des mises en scène amateurs, des pièces montées par des troupes amateurs qui vous invitent ou vous y allez complètement par hasard, peu importe, et vous voyez ça, vous dites « waouh ».
C'est pas la même chose. c'est pas le même travail et c'est pas les mêmes attentes. Alors, je peux aller voir des spectacles ouais. joués par des troupes amateurs et trouver ça très bien, mais c'est pas du tout le
mais même dans la dynamique. Fourchette d'acceptation du fait que c'est une troupe amateur.
Bah, dans la fourchette que ce que je vais voir c'est pas du théâtre, c'est une pratique d'une société.
Ouais.
Donc c'est autre chose. Et puis on a les gens passe le texte, il y a des inventions dans la mise en scène, des inventions dans le décor, il y a parfois des acteurs qui ont un tel naturel qui sont extraordinaires. Oui, mais c'est pas les mêmes critères de jugement. C'est comme si vous allez écouter votre neveu ou votre nièce qui joue du piano, c'est pas la même chose que si vous allez voir écouter un concertiste de renom international. Si vous allez voir Brendel ou votre petite nièce.
Sauf si mon neveu est un concertiste de renom international.
Peut-être. Ah. Voilà. Par exemple.
Bon, c'est pas le cas.
Pas encore.
Pas encore. Absolument. François Marin, pour conclure cette émission, là on comprend que vous avez beaucoup beaucoup de projets. Outre cette mise en scène, le grand retour de Boris Hess, le théâtre de Valère, la présidence du pool de théâtre roman. Vous avez encore un peu de temps pour vous, pensez à autre chose.
J'ai fait encore plein d'autres choses, mais qui ne sont pas forcément médiatiques, mais oui.
Non, mais je veux dire, hors théâtre, hors. Vous arrivez à évacuer cette obsession qui est la vôtre.
Silence. C'est une profession qui est plutôt agréable, qui donne l'impression d'être agréable, d'aller voir des spectacles, de rencontrer des gens.
Ouais.
C'est vrai que je le fais avec plutôt de l'enthousiasme. Alors j'ai la chance d'avoir une famille puis un petit enfant qui est né après que dont la naissance a été annoncée sur ses ondes par Florindinga Barbet. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Ça c'était très drôle. Et c'est vrai qu'un enfant, les parents savent ce que c'est. Ça prend du temps. Ouais. C'est vrai que j'ai ralenti un petit peu mon rythme pour me consacrer un petit peu à sa présence. Et puis il nous a fait quelques petites frayeurs, mais il va bien, il sourit et puis. Passer du temps avec mon fils qui a des fous rires, c'est très, très important. Ouais. Et puis, je pense que l'énergie que nous donnent les enfants, ça nous aide à aller de l'avant. Et puis, l'énergie que je reçois aussi en voyant travailler les comédiens, ça m'aide à poursuivre.
Et quelques idées, ça vous donne quelques idées aussi?
Ça me donne parfois quelques idées. Ouais. Mon fils, enfin, la pièce là, entre un père et un fils, c'était amusant parce que j'ai choisi cette pièce avant de savoir que je deviendrais père. Donc, il y a une certaine actualité.
Ah ouais.
Et puis mon fils ayant passé quelques temps à l'hôpital, tout à coup, ça m'a rendu plus sensible à des problématiques autour de la maladie et de la mort. Et puis je vais sans doute, je vais monter la saison prochaine un texte qui s'appelle Pacamambo de Vajdi Mawad, un grand auteur québécois, un texte pour enfants qui parle, parle justement de la mort. Donc la vie tous les jours sert notre pratique artistique.
Le théâtre dans les hôpitaux, les clowns pour enfants dans
c'est
les
formidable.
Hôpitaux.
Ouais, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des enfants. Là, au CHUV, il y a des clowns, il y a des musiciennes. C'est vraiment... Quand on a la chance d'avoir des enfants qui sont en bonne santé... On voit pas assez, c'est ça, mais c'est vrai que on a passé cet été au CHUV en croisant des familles qui ont des enfants cardiopathes ou leucémiques, et c'est des enfants extraordinaires. Et puis il y a un environnement autour de ces enfants qui est vraiment de grande qualité. Et ça, on a beaucoup de chance en Suisse d'avoir cette sensibilité autour de ces enfants qui traversent des périodes difficiles, même s'ils ont une force de vie incroyable. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des enfants qui vont bien, on n'a pas toujours conscience de ça.
Merci François Marin, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que cette pièce dont nous avons très brièvement parlé, mais il faut aller la voir, c'est Le Grand Retour de Boris S. de Serge Krébus. Vous assurez la mise en scène de cette pièce au Théâtre du Crocheton à Monté, 9, 10, 11 octobre, en tournée ensuite au Petit Théâtre de Sion à partir du 16 octobre jusqu'au 25, vous vérifierez les dates. Pool of Théâtre à Lausanne, 28 octobre, 15 novembre, au Théâtre de Bienne le 17 novembre, et puis ensuite à l'Alambic de Martigny les 20 et 21 novembre. Vous retrouverez bien sûr toutes les dates des représentations sur compagniemarin en un seul mot .ch. Je vous laisse en compagnie du dromadaire sur l'épaule de Mélanie Croubalian qui vous emmène toujours en Australie. Voilà, oui, c'est vaste, il faut l'explorer, ça prend du temps, il faut au moins une bonne semaine. Une bonne semaine. Demain à cette même place, Patrick Ferlin en compagnie de Jean-Marc Roberts. Bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous, il est 14h.